Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Aujourd'hui, Canal Académie poursuit sa série sur le thème des universités d'entreprise avec trois invités, avec trois experts, invités comme pour chaque émission. Bertrand Collomb, membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2001 dans la section économie, politique, statistique et finances, et président de l'Académie pour l'année 2013. Avec nous également, Valérie Dixmier, qui a passé 22 ans dans le conseil avant de rejoindre le groupe Lafarge fin 2011. Elle est directrice du développement de l'organisation et de l'université de Lafarge, l'université d'entreprise du groupe. Également avec nous en studio, Annick Renaud-Coulon, qui présente tous les volets de cette série. C'est elle qui va mener l'interview. Précisons qu'elle est experte des universités d'entreprise et présidente de Global CCU. Annick Renaud-Coulon, vous avez la parole pour cette émission consacrée aux universités d'entreprise par ceux qui président à leur destinée. Cette émission est parrainée par le groupe Lafarge.
Merci Marianne. Et nous allons effectivement tout d'abord commencer par présenter Lafarge, leader mondial des matériaux de construction. Lafarge est une entreprise du CAC 40, de la Fortune List 500. Cette société, née en Ardèche en 1833, est aujourd'hui implantée dans plus de 60 pays, 64 à peu près, c'est cela. Lafarge est numéro un mondial du ciment, ce qui représente 64% de son portefeuille d'activité, numéro 2 des granulats et numéro 4 du béton. En 2012, Lafarge a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 16 milliards d'euros. On va dire que pour le cinquième trimestre consécutif, ses résultats opérationnels sont en hausse, portés par la performance opérationnelle du groupe et la croissance dans les pays émergents où il réalise près de 60% de ses ventes. Il faut dire qu'il ne réalise que 6 à 8% de son chiffre d'affaires en France. Alors, impossible de relater la saga de cette fantastique entreprise dont le premier grand chantier à l'étranger sera celui du canal de Suez en 1864. Elle a dans son ADN non seulement cette volonté de devenir le leader incontesté des matériaux de construction en offrant le meilleur à ses clients en matière d'innovation et de fiabilité des produits et services, mais aussi une politique sociale dont il faut souligner qu'elle fut déjà récompensée en 1889 par la médaille d'or de l'exposition universelle et même chose en 1900. Alors nous allons essayer de comprendre comment l'université Lafarge, qui a ouvert ses portes en 2004, est devenue un vecteur indispensable du développement de l'entreprise et de sa transformation. Nous allons voir cela dans un instant. Tout d'abord, Monsieur Bertrand Collomb, vous avez dirigé ce grand fleuron de notre industrie française de 1989 à 2003 et conduit son développement international extraordinaire avec le succès que l'on sait. Il faut dire que vous aviez visiblement bien préparé les esprits puisque c'est à cette date, en 2003, que l'entreprise travaille sur son projet de création d'université d'entreprise et que celle-ci voit le jour début 2004, comme je le disais à l'instant. Alors, est-ce que l'on doit voir là le fruit de votre management, de vos convictions si bien connues, de l'importance du développement humain et de la place centrale de l'homme dans l'entreprise?
Mais je crois, si vous voulez, qu'il faut surtout voir là-dedans une évolution à la fois continue mais très forte du groupe dans son environnement. Alors Valérie Dixmier va vous parler des changements auxquels Lafarge est confrontée maintenant dans les dernières années. Mais moi, j'en ai été donc président, directeur général de 89 à 2003, comme vous le rappeliez. Et ça a été une année d'énorme développement international. Notamment, en 2001, nous avons fait l'offre publique d'achat, l'acquisition, qui nous a fait de nous le leader mondial cimentier. Et il est clair que cette évolution, cette croissance, a créé un besoin de faire davantage en termes de cohésion du groupe, de redéfinir ce qu'était le groupe pour un tas de gens qui l'avaient rejoint très récemment. Je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais constaté que moins de la moitié des gens, des collaborateurs du groupe, étaient là depuis plus de 5 ans. Et c'est d'ailleurs pour préparer, disons, ces changements, ou tenir compte de ces changements, et également préparer ma succession, parce que je savais également que je devais partir, que j'allais partir en 2003, en deux phases, directeur général en 2003 et quitter la présidence en 2007. Nous avions, avec l'équipe direction générale de l'époque, lancé un projet qui s'appelait Leader for Tomorrow. C'était un projet pour redéfinir le groupe, son futur, mais il y avait aussi l'idée que les collaborateurs du groupe soient aussi des leaders. Donc leader, on jouait sur les mots entre le groupe leader et des leaders pour le groupe. Et j'avais d'ailleurs demandé à Bruno Lafont, qui sera ensuite le directeur général et deviendra président directeur général du groupe, de conduire cette opération Leader for Tomorrow. Et cette opération avait eu beaucoup de facettes, beaucoup de discussions autour de la rédaction de ce qui devait être la charte, en quelque sorte, du groupe pour le futur, mais avait aussi montré qu'il y avait des besoins d'aller au-delà de ce que nous faisions classiquement en termes de formation. Nous avions bien sûr un centre de formation qui était d'ailleurs à l'endroit au berceau historique du groupe dans la vallée du Rhône. Et puis nous avions créé des formations genre école de guerre pour les hauts potentiels du groupe. Nous avions toute une série de choses, mais qui avaient été faites de façon un peu disjointe. Et il y avait un besoin de mettre tout ça ensemble pour avoir un outil qui permette d'assurer la cohésion et l'avenir du groupe. Et c'est pour cela que mes successeurs ont créé cette université d'entreprise, mais qui était, disons, l'aboutissement d'un processus de réflexion qu'on avait lancé dans les années 2000.
Valérie Dixmier, vous dirigez l'université d'entreprise du groupe Lafarge depuis 2011. Pour le grand public, le terme d'université d'entreprise reste encore très flou. Si je vous demande de définir à l'intention de nos auditeurs ce qu'est Lafarge University, que répondez-vous ? Qu'est-elle ? Que n'est-elle pas ? Par exemple, est-ce que c'est une école de guerre ?
Alors, comme le disait très précisément Bertrand Collomb, donc Lafarge Université a été créée à partir de 2003 et a vraiment commencé son démarrage en 2004. Donc, dans le but de pérenniser les acquis de ce projet Leader for Tomorrow et de diffuser la culture du groupe, ce qui a fait sa réussite, l'ADN de Lafarge. Il s'agit donc d'une culture d'entreprise très forte qui a su toujours mettre l'homme au centre de sa réussite et de ses préoccupations de développement. Alors, l'université a été créée au départ dans une perspective relativement élitiste, puisqu'elle ciblait principalement les leaders de l'entreprise, les futurs leaders. Donc, les premiers programmes qui ont été développés ont ciblé en priorité les futurs leaders, donc les hauts potentiels, mais aussi un programme très important d'intégration des managers, donc issus des différentes sociétés acquises pendant toute cette période, et les acculturer à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Lafarge Way, c'est-à-dire la façon très spécifique qu'a Lafarge de développer son business dans les différents pays où elle opère. Alors, ce qui est remarquable, je trouve, dans la création de cette université, c'est le soin qui a été pris par les dirigeants de l'époque, et donc Bruno Lafont en particulier, qui a été très actif dans ce processus de création de l'université. Et d'autres membres, d'ailleurs certains sont encore dans le COMEX aujourd'hui et continuent à être attachés à Lafarge Université comme s'il s'agissait encore d'un jeune enfant qu'il faut protéger et développer. Il y a beaucoup d'attachement en interne à cette université. Et donc il y a eu un soin très minutieux. Donc ça a été un projet, en mode projet. C'est quelque chose qui a duré 6 mois et dans lesquels on a travaillé à définir une vision pour l'université.
On va peut-être en parler d'accord. Un petit peu après. Ce que vous me disiez aussi en préparant cette émission, c'est qu'en fait, vous avez également défini ce que n'était pas l'université Lafarge. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Faire bien comprendre, finalement, qu'est ce concept ?
Oui. Alors, c'est quelque chose qui a été défini aussi à l'époque. C'est très important pour moi aujourd'hui de pouvoir m'y référer. Donc, Lafarge Université a été construit avec des gens du terrain, avec un immense respect des programmes de développement qui existaient déjà dans les business units du groupe. Donc, les choses ont été faites de façon très intelligente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de table rase de ce qui existait, mais au contraire, on a cartographié ce qui existait pour en prendre le meilleur et décider ce qui serait opéré par Lafarge Université. Donc on a défini à l'époque que Lafarge Université en aucun cas ne serait le dispositif unique de développement des collaborateurs destiné à remplacer les initiatives locales déjà existantes. Il a été défini que Lafarge Université ne fournirait pas les seuls programmes pertinents pour le développement des seniors exécutifs. on a défini que Lafarge Université n'était pas un dispositif corporate ayant vocation à centraliser et remplacer les programmes de formation existants dans les divisions et les business units du groupe, ni le département de formation du groupe élaborant des programmes à la demande des business dès lors qu'un nouveau besoin apparaîtrait, encore moins un catalogue de formation complet couvrant l'ensemble des besoins de développement de l'ensemble des salariés. Lafarge Université ne propose pas non plus des programmes de développement touchant les compétences techniques, ça c'est un point très important. Et nous ne sommes pas une équipe de consultants internes destinée à faire le design des programmes demandés par les business units et à les faciliter. Voilà.
Très bien.
Donc ça vous montre à quel point ça nous éloigne de la définition d'un centre de formation.
Tout à fait.
Et donne un positionnement stratégique, élitiste, dans un premier temps, même si ce positionnement est évolué, on en parlera tout à l'heure, mais très éloigné d'un centre de formation. Donc avec un portage à très haut niveau dans l'entreprise. Tous les programmes de Lafarge Université sont sponsorisés par un membre du comité exécutif.
Alors justement, c'est une des questions que je souhaiterais vous poser. L'un des facteurs clés de succès d'une université d'entreprise, c'est le soutien fort et visible du PDG, des membres du COMEX. Bruno Lafont, votre PDG, est-il aujourd'hui impliqué dans Lafarge University? Est-ce qu'il y consacre du temps? Est-ce qu'il est un prescripteur de l'université? Qu'en est-il?
Alors, Bruno Lafont est un homme évidemment très occupé, mais conserve un attachement fort au rôle qu'il entend faire jouer à Lafarge Université, donc il s'en préoccupe. Alors, de plusieurs manières, il est lui-même sponsor du programme le plus important de Lafarge Université, qui est le programme BUILD, qui est le programme de développement des futurs leaders du groupe, qui se déroule très rapidement de la façon suivante. Des apports de contenu qui ont pour vocation de renforcer le leadership et préparer ses futurs leaders. Et à ce moment-là, à la fin de ce premier module, Bruno Lafont communique le projet, le thème, un thème qui lui est cher et sur lequel il entend utiliser ses futurs leaders comme sounding board, comme think tank, enfin comme groupe de réflexion. Et donc, on prend ce sujet, ce thème, chaque année, et on le découpe en différents sujets qui sont choisis par des groupes de travail, donc qui travaillent dans le monde entier à distance pendant quelques mois. On met en forme tout ce matériau en général très riche et très mobilisateur pour ces futurs leaders. Et ils ont le privilège de partager 4 heures de discussion avec Bruno Lafont dans un quasi huis clos, puisque les autres membres du COMEX ne sont pas invités à cette session. Et voilà, il teste, c'est l'occasion pour lui de tester des idées et de connaître personnellement ses futurs leaders.
Vous me disiez qu'il était à même également de vous interpeller sur la manière dont vous pilotez votre université. Vous avez une anecdote à ce sujet.
Oui, j'ai une anecdote à ce sujet que j'ai trouvée très, très emblématique du soin qu'il y attache. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, il se trouve qu'une collaboratrice directe de Bruno Lafont, jeune équivalent de Sherpa, chef de cabinet, enfin, je ne sais pas comment il faudrait la désigner, elle reçoit le mail automatique qui est envoyé à tous les N+1 des candidats à ce programme de développement des jeunes futurs potentiels du groupe. Et Bruno Lafont répond au sponsor de ce programme, qui est le directeur financier, « Merci de m'envoyer ce mail automatique en anglais », bon, laissant entendre qu'il aurait pu attendre mieux. Et à ce moment-là, une discussion s'enchaîne, et puis je finis par être en copie des différents échanges, et Bruno Lafont prenant le temps de m'expliquer ce que représentait pour lui l'importance d'une culture d'attention. C'est comme ça que ce sont les termes qu'il a choisis. Bon, pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience très forte et qui va de pair avec le privilège, enfin le positionnement qu'on entend donner à cette université, le privilège d'y être invité comme participant, qui nécessite de ma part de prendre le plus grand soin à envoyer des lettres manuelles, signées manuellement, surtout lorsqu'il s'agit du CFO du groupe qui sponsorise ce programme, et ayant des mots très durs en disant c'est le piège de la technologie et ces processus automatiques rendent le plus valeureux et dévoué des sponsors et compétent des sponsors en fait l'affreux robot d'une bureaucratie mécanique. Voilà.
Monsieur Collomb, qu'est-ce que vous pensez de cette culture d'attention ?
Ah ben moi, je suis tout à fait heureux de voir que dans un monde différent, dans un groupe différent, le président actuel du groupe a toujours cette attention aux personnes et cette attention au processus d'enrichissement et de développement. Et je dirais, je suis particulièrement heureux qu'il ait aussi cette attention au retour. C'est-à-dire que un dirigeant a toujours le risque d'être isolé de ce qui se passe. Et finalement, utiliser les opportunités où il y a des cadres dynamiques de haut niveau qui sont ensemble pour réfléchir et utiliser cette opportunité pour enrichir sa propre réflexion, je trouve que c'est formidable.
Ouais, tout à fait. Merci. Alors Valérie, la vision des fondateurs, la mission de cette université, qu'en est-il aujourd'hui? Depuis la création à aujourd'hui, les choses ont quelque peu changé. Pouvez-vous nous dire quelle est la vision de Lafarge University? Quelles sont ses missions aujourd'hui?
Aujourd'hui, moi, j'ai d'abord récupéré un formidable héritage, hein, je tiens à le souligner. Il se trouve que fin 2011, moi j'arrive dans un groupe en pleine réflexion sur son modèle organisationnel et très rapidement, avec une équipe dirigeante qui a réussi à changer complètement l'organisation du groupe l'année dernière, avec un très grand succès, une très grande rapidité des soins d'exécution. Et donc j'ai été amenée, dans ce contexte-là, à redéfinir les missions de Lafarge Université. Donc je les ai redéfinies dans quatre directions. D'abord, j'ai été très attentive à développer des programmes en soutien à la transformation qui s'opère dans les pays, puisque l'organisation qui a été choisie, c'est de mettre le barycentre du groupe Lafarge, non plus dans les branches, comme c'était le cas auparavant, mais dans chacun des pays du groupe. Et donc j'ai développé tout un pilier, tout un volant de mes programmes à supporter la transformation de ces pays, c'est-à-dire à travailler dans deux directions, l'efficacité des équipes dirigeantes nouvellement constituées et aussi l'alignement derrière une cible stratégique à 5 ans avec des cartes de transformation et des compétences accrues sur le pilotage de programmes complexes de transformation. Voilà, donc ça c'est le soutien à la transformation du groupe. Également, un deuxième pilier qui est un ancrage fort sur les priorités business. Donc on a deux projets très emblématiques chez Lafarge, qui sont un programme extramal, qui est un programme d'innovation qui consiste à positionner l'entreprise autrement sur la chaîne de valeur, à être plus en amont sur la chaîne de valeur pour proposer au marché qui attend des solutions de construction, ce qui suppose de faire coopérer nos différents business, et c'était une des raisons de ce changement d'organisation. Et donc, comme on veut terriblement se renforcer sur le commercial, sur le marketing, sur la proximité des clients, il y a là tout un volant d'activité qui consiste à renforcer nos expertises commerciales et marketing. Il y a un deuxième volet qui est la performance, avec des actions extrêmement vigoureuses sur la professionnalisation d'un certain nombre de fonctions, comme les achats, la supply chain, les alternatives fuel. Enfin, il y a beaucoup de leviers de performance sur lesquels nous travaillons et pour lesquels nous proposons des programmes également. Enfin, troisième pilier, c'est le Lafarge plus traditionnel, puisqu'il s'agit du Learning and Development Journey, c'est-à-dire du parcours de développement des jeunes managers jusqu'aux seniors exécutifs, et aussi l'appui, la professionnalisation sur les différentes fonctions. Et puis un quatrième volet, là, qui est en émergence, mais auquel personnellement je crois beaucoup, qui en français, alors on dirait devenir une organisation apprenante, avec quelques programmes très emblématiques. D'abord un e-learning, donc l'e-learning campus qui a permis d'ouvrir l'université à l'ensemble des employés du groupe il y a déjà 4 ans. Mais aussi un programme emblématique qui s'appelle iLearn, qui consiste à rendre chaque employé et manager responsable de son développement.
C'est vrai que vous avez, donc, depuis votre arrivée, modifié les missions en renforçant cette mission d'accompagnement de la transformation de l'entreprise. Et votre université a d'ailleurs la particularité tout à fait intéressante d'être organisée en miroir à ces quatre piliers que vous venez de nous expliquer, avec d'une part l'OD. Alors peut-être pouvez-vous définir ce qu'est l'OD pour nos auditeurs?
Oui, alors l'ODES, c'est la partie développement de l'organisation. Donc moi, j'ai hérité d'une situation dans laquelle, dans mon portefeuille, j'avais à la fois le développement de l'organisation et l'université, qui jusqu'à présent étaient deux activités différentes, séparées, qui ne communiquaient pas beaucoup. Et il se trouve qu'avec l'évolution du modèle d'organisation du groupe et tout ce support à la transformation qui était nécessaire, il se trouve qu'il a fallu injecter de la compétence OD, dite OD, Organizational Development, dans les programmes de Lafarge Université, du change management, enfin toutes sortes de leviers qui étaient cotés de l'organisation. Et donc j'ai naturellement renforcé et je les ai en fait... J'ai fertilisé les deux équipes, c'est-à-dire qu'elles travaillent aujourd'hui ensemble. Les gens de l'OD développent eux-mêmes des programmes et les gens de Lafarge Université développent aussi des projets. C'est-à-dire que dans cette organisation, tout le monde se développe avec des projets et des programmes. Et je tiens beaucoup à ce fonctionnement très collaboratif au sein de mon entité. J'ai eu parfois un peu de difficulté à faire passer l'idée que le redesign d'un programme, c'est une occasion unique et formidable. Et qu'il faut plusieurs fées sur le berceau, même si, évidemment, la noblesse d'un programme manager, c'est de développer son programme de sa conception jusqu'à son évaluation. Moi, je tiens beaucoup à ce que ces deux équipes travaillent main dans la main, et c'est en train de se faire, et les gens sont très contents que ça se passe de cette façon.
Alors, on est dans l'organisation, continuons un peu d'explorer ce sujet. Lafarge University est rattachée au DRH du groupe. Elle n'a pas de mur, pas de campus, mais elle dispose de 3 implantations régionales en Europe, en Asie et aux États-Unis. Pourquoi avoir fait ce choix organisationnel ?
Alors, ce choix organisationnel, parce que un des enjeux de Lafarge, c'est d'envoyer un signal vers les pays émergents. Et enfin, je pense que la réflexion de l'époque, c'est qu'on n'est pas très sûr qu'en implantant une université avec des murs dans la région parisienne, ce soit un signal très positif de ce point de vue. Alors, on a aussi un très fort souci des business units et des coûts. Chez Lafarge, il y a vraiment une culture de l'optimisation, la recherche de faire les choses au meilleur coût. Et une partie de ces programmes est financée par le groupe. Une autre partie du financement repose sur les business units et les pays aujourd'hui. Et donc, on a un grand souci, quand on fait ces programmes, de faire en sorte de minimiser au maximum les coûts. Donc, on va près d'eux. Donc, pour l'Asie, on se met habituellement à Kuala Lumpur. On a régulièrement des programmes qui sont donnés à Washington, enfin, ou aux États-Unis, et d'autres en Europe, mais pas forcément en France. On va là où l'offre est la plus avantageuse.
Est-ce qu'on peut dire également que c'est pour des soucis de coller à la culture locale, de respecter les manières d'apprendre dans certaines cultures qui sont différentes de celles, par exemple, du siège social ? Est-ce que ça a joué également dans votre décision ? Ou est-ce que, par exemple...
Non, je ne suis pas certaine.
Alors, abordons maintenant les nouvelles manières d'apprendre que vous avez développées au sein de Lafarge University. Vous avez mis en effet en place une cellule de veille qui vous a permis d'être à la pointe sur les approches d'apprentissage virtuel. Qu'est-ce que cela a modifié dans l'offre éducative de Lafarge University ?
Alors, d'abord, je pense que Lafarge University était à la pointe de ce qu'on trouve sur le marché du learning bien avant mon arrivée. Mais il se trouve que j'ai voulu accélérer les choses et donc, effectivement, il y a une personne qui m'est rattachée qui, dans son périmètre de mission, j'ai découvert à mon arrivée que c'était un marché sur lequel il se passait énormément de choses, avec des consultants, des organismes de formation, des business schools. Enfin, ce monde est en train de se recomposer et pour nous, il s'agit d'avoir les meilleures offres. Donc, ça demande d'y consacrer du temps, de scanner ces offres, d'analyser la valeur à chaque fois qu'elles peuvent nous apporter. Donc ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe sur la façon de faire les choses. Il y a déjà plusieurs années, chez Lafarge Université, a été partagée la conviction que un développement réussi, ce n'est pas une formation dans une salle de classe. Voilà. Un développement, c'est un parcours qui commence par une préparation minutieuse, qui continue par... Alors maintenant, c'est formidable avec la technologie et c'est ça que depuis un an, on travaille, c'est-à-dire des plateformes collaboratives sur lesquelles les participants peuvent commencer à se connaître, échanger des préoccupations, des besoins de développement et utiliser les modules d'e-learning qu'on met déjà à leur disposition. Ce qu'on cherche, c'est qu'ils soient extrêmement actifs dans leur préparation pour qu'ils arrivent de façon complètement préparée et qu'ils optimisent tout ce qui va leur être donné pendant cette séance physique. On continue ensuite le parcours par des webinars, par beaucoup de travail avec ce qu'on appelle le manager-développeur, c'est-à-dire que nous, on est persuadés qu'un développement, ça s'opère dans un triangle vertueux entre le participant, son manager et le RH de son unité. Et on travaille sur ce triangle, au travers des plans de développement, au travers de ce qu'on appelle, on dit ça en anglais, des on-the-job activities, c'est-à-dire du développement dans l'activité quotidienne. Et donc le rôle du manager, ça va être bien de trouver les projets, les activités de développement qui répondent à ce qui aura émergé de la formation et qui va devenir un axe de développement pour le participant.
Très bien. Alors, je souhaiterais demander à M. Collomb, qui est un observateur vigilant du fonctionnement des hommes et du climat humain dans les entreprises, ce qu'il pense des classes virtuelles, de la mise à disposition des managers d'outils d'autodéveloppement, de l'e-learning campus qui était effectivement instauré chez Lafarge, destiné à élargir l'accès aux basiques du management à l'ensemble des collaborateurs. Comme vient de le dire Valérie, ces innovations se développent partout dans le monde, en fait, hein, et présentent l'immense intérêt de l'élargissement de la cible, de l'accès au savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la responsabilité des acteurs aussi, de la baisse des coûts, vous en avez parlé. L'humaniste que vous êtes, y trouve-t-il son compte ?
Oui, je crois que Valérie nous a décrit un système, une méthode, une approche qui permet de sortir de la contradiction qu'on avait toujours, de dire, bon, on fait une session de formation, on envoie les gens dans cette session de formation, on leur raconte de très belles choses pendant 4 jours, 5 jours, 8 jours, et puis après ils reviennent dans leur job habituel. Et puis, on n'est pas très sûr, 15 jours après, 3 mois après ou 6 mois après, que ça ait changé grand-chose. L'idée qu'on n'est pas là pour former au sens classique, mais qu'on est là pour développer, et que ce développement se fait en différentes étapes, dont la mise en présence d'outils de formation, de outils de réflexion, etc., me paraît une excellente réponse à une question qu'on se posait depuis longtemps. Et moi, je suis très frappé par le développement de l'approche de cette université d'entreprise. Et puis, comme je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que j'ai été président directeur général de Lafarge il y a déjà longtemps, directeur général il y a 10 ans, président il y a 5 ans, je suis frappé du fait qu'il y a, on voit bien à travers cette expérience, qu'il y a des invariants et puis il y a des tas de changements. Alors, les invariants, c'est l'importance des hommes et des femmes de l'entreprise et le fait que c'est eux et elles qui ont en main le succès de l'entreprise et que donc c'est par eux que tout passe. Et ça, ça reste un invariant depuis 1833. Mais les changements sont énormes. Moi-même, il y a 15 ans ou 20 ans, j'avais fait des changements d'organisation. Là, on a fait un changement d'organisation. Alors, on peut se demander, mais alors attendez, ça veut dire que votre organisation avant, elle était mauvaise ? Bien sûr que non. Ça veut dire simplement que l'entreprise, elle est faite de changements. L'entreprise n'est pas quelque chose de statique parce que le monde n'est pas statique. Et que l'entreprise doit chaque fois changer par phase. Alors, il ne faut pas que ce soit un mouvement brownien. Donc, il faut qu'il y ait des changements organisés et que l'université d'entreprise, c'est dans le fond un moyen extraordinaire de provoquer, de concevoir et d'accompagner le changement. Et c'est en cela que c'est bien autre chose que de la formation au sens traditionnel du terme.
Merci. Valérie, une dernière question. Quels sont les défis de Lafarge University ? Peut-être n'avons-nous pas assez parlé des chiffres clés la population qui est concernée par l'université aujourd'hui. Est-ce que dans les défis figure notamment un élargissement de la population cible ? Il me semble que oui. Quels sont les défis ? Merci.
Alors aujourd'hui, nous touchons environ 1500 personnes par an. On a les 10 000 managers du groupe Lafarge dans notre cible. Et le défi, c'est de leur proposer un parcours le plus cohérent possible, hein, mais également un parcours de développement qui soit un parcours long. Et ça, je trouve que c'est une difficulté aujourd'hui qui se pose à toutes les entreprises. Dans des fonctions antérieures qui étaient les miennes, il y a quelques années, j'avais fait une enquête avec la Sofres auprès des DRH des groupes du CAC 40 qui donnaient des résultats tout à fait étonnants, qui montraient qu'on développait les carrières des gens à partir de 28 ans et qu'on s'arrêtait de le faire à 40 ans. Voilà. Ça, c'est pour moi une partie du mal français, surtout quand on promet aux gens des retraites à 70 ans. Moi, je ne vois pas que les gens de 50 ans soient moins alertes, motivés, mobilisés et moins capables d'apprentissage que les autres. Et donc, il y a un certain nombre de directions et de peut-être à reconsidérer.
Mais dans l'académie, on voit que même à 70 ou 80 ans, ils sont encore capables de faire des choses extraordinaires.
Voilà. Alors, et donc moi, je serais ravie de relever un défi qui consiste à développer des gens sur un horizon de temps plus ambitieux que ce qu'on fait aujourd'hui.
Autre défi sur celui de la communication de l'université. Est-ce que l'on connaît bien Lafarge University chez toutes ces parties prenantes?
Alors, je pense que oui, jusqu'à présent, l'université était, je pense, bien perçue au sein de Lafarge Université, de façon précise, dans son offre et dans ce qu'elle apportait au groupe. Là, il faut être vigilant, parce que je pense qu'il faut être capable de préserver l'université, et dans la vie d'un groupe, il y a des moments d'accélération, il y a des moments où on stabilise un peu les choses. Je pense qu'il est important de garder une masse critique, justement, pour que les managers du groupe gardent à l'esprit qu'on s'occupe d'eux et qu'on est dans la stabilité et dans la préoccupation de leur développement.
Merci beaucoup à tous les deux. Marianne, je vous repasse la parole.
Moi, j'ai une question pour vous avoir écouté tous. Le groupe Lafarge, c'est une question d'ailleurs, Annick, je pense que vous l'auriez posée si vous aviez peut-être eu plus de temps. Comment l'université Lafarge prend en compte la dimension environnementale ou la protection de l'environnement au regard de ses activités et de la croissance de ses activités?
Alors, Lafarge, il y a un certain nombre d'années, a développé des modules sur ces sujets-là. Entre-temps, le sujet est devenu tellement important pour le groupe et porté à très haut niveau par des membres du COMEX que...
Le COMEX, comité exécutif.
Pardon, le comité exécutif, oui. Que Lafarge Université, pour l'instant, en ce moment, n'a pas de mission de relais sur ce thème-là, bien que sur la santé et sécurité, on soit en train à nouveau de retravailler, parce que ça, c'est un thème tellement central que tous les acteurs sont mis à contribution, c'est la priorité numéro un du groupe. Pour le reste, les ambitions environnementales, de développement des communautés, de préoccupations écologiques, le sujet est tellement travaillé, pris au sérieux, qu'il y a une direction de la performance qui s'en occupe aujourd'hui, la direction de la stratégie s'en occupe également. Et donc Lafarge Université, pour l'instant, est moins mobilisée sur ces sujets-là.
D'accord.
Le groupe a des objectifs 2015 qui sont extrêmement ambitieux dans le domaine de tout ce qui est développement durable.
Merci à tous les trois. Annick, Annick Renaud-Coulon, vous voulez ajouter un dernier mot?
Alors, en tant qu'experte du sujet, je voudrais dire, effectivement...
Votre regard, Annick.
Mon regard, comme à chacune de nos émissions. Ce que j'ai à dire par rapport à cette Lafarge University, c'est une université qui transpire l'intelligence stratégique. On est loin des universités d'entreprise qui vendent de la formation, des heures de learning, etc. On est là vraiment dans de l'intelligence collective. On a tout de suite compris le lien avec l'organisation, le développement de l'organisation et l'éducation. Combien cette structure est bien placée dans l'entreprise, proche de la direction générale. Je trouve qu'il y a de très jolies pépites dans cette université d'entreprise. Elle n'a cessé depuis sa création de se transformer au même rythme que l'organisation qu'elle sert, avec pragmatisme, réalisme. On voit qu'elle s'adapte, qu'elle cherche à optimiser ses performances financières dans un contexte où il faut faire plus avec moins, et je pense qu'elle fait mieux. Elle innove. La partie de l'innovation est aussi extrêmement intéressante, va vers les technologies d'apprentissage d'ailleurs si familière aux nouvelles générations. On voit bien là qu'il y a une prise en compte aussi des transformations sociologiques. Elle supporte le business, et elle le dit très fort. Et là, elle va là où se passe le business. Et non, en imposant une culture qui vient du central, elle se définit comme un learning hub. Je trouve ça aussi très intéressant. On n'a pas écrasé les bonnes pratiques des filiales et du terrain par des programmes centraux. On les prend en compte dans une logique de subsidiarité tout à fait intelligente. Donc j'avais envie de dire cela, c'est vraiment du grand art. Bravo. On a vraiment là une belle démonstration de ce qu'est une université d'entreprise de nouvelle génération versus un centre de formation. Merci beaucoup.
Alors il me reste à vous remercier tous les trois d'être venus à Canal Academy pour cette émission parrainée aujourd'hui par le groupe Lafarge. Et je remercie particulièrement Valérie Dixmier d'être venue présenter l'université Lafarge, Bertrand Collomb qui nous accompagne pour toute cette série d'émissions mais qui là a habituellement un regard extérieur sur, en tant que grand capitaine d'industrie, et là il avait ce double regard à la fois en interne, même si le groupe est aujourd'hui dirigé par Bruno Lafont. Et il me reste à remercier Annick Renaud-Coulon d'avoir mené cette interview en tant que grande experte des universités d'entreprise.